Je voudrais prendre un sujet d'actualité qui nous touche tous. Monsieur Trump paraît un fantaisiste depuis des années. Monsieur Trump paraît pour un caractériel, et en Europe, on le classe tel quel. Mais il faut savoir que s'il est là, Dieu, quel qu'il soit l'homme, peut s'en servir. Et ça peut dépasser l'homme. Et Dieu peut accomplir des choses grâce à un homme que nous n'apprécions pas. Alors, j'ai appelé cet exposé-là la mythologie occidentale à propos des apparentes intuitions de M. Trump. Pourquoi M. Trump a-t-il décidé de retirer ses soldats de Syrie et de la région kurde? Pourquoi? Pourquoi les a-t-il laissés jusque récemment? Alors, je dois vous expliquer que c'était fondé sur un accord avant qu'il arrive, Iran et Occident. Cet accord Iran-Occident permettait d'importer l'énergie et le gaz et le pétrole d'Iran à bas prix, beaucoup moins cher que celui d'Arabie, de Turquie et de Russie. Donc, pour ce faire, il fallait protéger les zones kurdes du nord de l'Irak et de la Syrie pour faire passer des gazoducs, des oléoducs, arriver à Alep, la ville chérie qu'on bombarde tout le temps, et passer dans la Méditerranée et alimenter l'Europe. Et donc, on la bombarde pour des raisons stratégiques, économiques et politiques. Pas seulement parce que il y a des révoltés là, des insurgés. Alors, l'Europe voulait sauvegarder un prix bas de l'énergie. Et l'allié européen de l'Iran se moquait un petit peu de l'attitude de Trump, qui était fâché contre l'Iran à propos de la bombe atomique, etc. Alors, nous étions sous la mouvance de l'Iran pour avoir des tarifs d'énergie bon marché. Et finalement, ça dérangeait la Turquie, ça dérangeait la Russie, ça dérangeait l'Arabie, qui ont alimenté les groupes de Daesh et d'État islamique, comme ça c'était pas eux, même si on savait dans les services secrets militaires et tout qu'ils étaient derrière tout ça, qu'ils alimentaient, qu'ils donnaient des armes, mais c'était pas eux, officiellement et pour le monde, pour la foule, la masse que nous sommes. Et donc, ces trois pays alimentaient Daesh et État islamique pour attaquer la zone kurde, pour attaquer toute cette zone et essayer de détruire cet accord Iran-Occident. De manière à pouvoir nous revendre leur pétrole qui est plus cher. Finalement, il est arrivé quelque chose, c'est que à la mi-décembre 2019, la Russie a convaincu l'Iran de conclure avec elle et l'Arabie, en dépit de leur haine réciproque, un accord. Un accord, pourquoi? Sur le quota de production, pour faire remonter les prix. Donc une hausse des prix arrangeait la Russie, la Turquie, l'Iran et l'Arabie, puisque tout d'un coup, pour une autre raison, M. Trump et ses ingénieurs pétroliers avaient trouvé une méthode d'extraction du gaz de schiste et du pétrole aux États-Unis et au Canada beaucoup moins cher. Ils pouvaient concurrencer le gaz et le pétrole de l'Iran. Donc M. Trump a amené sur l'Europe, qui a pris ça pour du pain béni, le gaz et le pétrole américain et canadien, et a laissé tomber froidement l'Iran et l'accord qu'ils avaient. C'est le business. Il n'y a pas de parole qui compte, c'est le business. De cette manière-là, M. Poutine pouvait aller trouver l'Iran en disant, vous voyez, ils vous ont roulé, ils vous ont trahi, eh bien, on va faire un accord avec l'Arabie et la Turquie, et on va arranger une diminution de l'extraction de pétrole pour augmenter les prix et pouvoir vivre à l'aise, nous tous. Et figurez-vous ils se liguaient tous contre Trump, tout compte fait. Et Trump avait trouvé une astuce grâce à ses ingénieurs, à ses sites d'exploitation. Il a pu tenir tête. Et toutes les techniques qui avaient été mises au point permettaient de tenir tête et l'Europe a continué à avoir de l'énergie à bas prix. Donc la tactique économique et stratégique et militaire via le pétrole des associés Iran, Arabie, Turquie, Russie n'a pas marché. Mais ils sont vexés. Ils sont très vexés. C'est sans compter que tout cela ne peut pas rester sans suite. Alors, ce pacte Iran, Arabie, Russie, Turquie, naquit fin 2018. C'est parce que je suis les informations très tard et je me faufile au moment donné où tout le monde dort et je vois des informations qui ne donnent pas en journée, ce qui est lamentable. Et c'est lamentable parce que les bonnes informations ne sont jamais là la journée. Et finalement, l'action de Daesh, État islamique, n'avait plus de sens puisque le gaz et le pétrole iranien ne passeraient plus et ne passera pas plus par le nord de l'Irak et la Syrie dans les zones kurdes. Donc, les attaques de Daesh et État islamique ont ralenti et on a laissé croire dans les masses médias qu'on avait vaincu État islamique et Daesh. Couraient toujours, avec le monde, le beau monde qu'ils avaient derrière eux. Et d'autre part, ce qui se passe, puisque ça n'intéressait plus de protéger en même temps pour les Américains, ça coûtait très cher, et pour les Européens, il y avait des soldats français et anglais, on a laissé tomber les zones kurdes, on a retiré tous les soldats. Dans tout ça, c'est les pauvres Kurdes qui souffrent. Et il y avait beaucoup de chrétiens. Pendant toute cette période où il était protégé, beaucoup de gens se sont tournés vers l'évangile. Énormément. Et beaucoup de chrétiens syriens et irakiens se sont réfugiés dans les zones kurdes. Qui a pris sur la tête le gros coup de marteau? C'est les chrétiens. Et pensez à ces souffrances qui sont annoncées à la fin des temps pour les chrétiens, hein, et même dans l'Apocalypse, dans la fin de l'évangile de Matthieu et de Luc. Eh bien, c'est actuel. Alors, je résume. L'apport massif des USA en gaz et pétrole a eu des conséquences. Désintérêt pour les exportations iraniennes. Désintérêt pour les zones kurdes et la protection par les soldats. Désintérêt plus global pour tout le Moyen-Orient et pour les populations. Elle meurt, c'est pas trop grave, vous savez, il y en a assez sur la terre. Au niveau du business mondial et militaire, ce n'est pas très grave. Pour nous, sentimentalement, oui. Et des intérêts même pour l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, M. Trump, quand il avait eu son mandat, avait dit « je la mettrai à genoux », puisqu'elle alimentait les wahhabistes, elle alimentait Daesh, État islamique. Il s'était juré en venant président de la mettre à genoux. Elle est à genoux, elle est endettée pour plusieurs milliards. Et donc elle a besoin de tout le monde. Et elle a même besoin de M. Kouchner, le neveu de Trump, qui a une très bonne relation avec le nouveau roi d'Arabie, parce que le roi d'Arabie sait que le pétrole d'Arabie est à sa fin. Et il a consulté M. Kouchner en disant « Mais le petit État d'Israël que vous avez, il est aussi riche, aussi prospère, il fait des inventions comme à Silicon Valley aux États-Unis. Est-ce que vous ne pourriez pas m'aider pour que l'Arabie devienne un site de nouvelles technologies, de nouvelles inventions, et que mon pays puisse remonter la pente ?» Et donc l'Arabie a tout intérêt à être gentil avec M. Kouchner et M. Trump, et Israël, et ne plus soutenir les combats contre Israël. Cette situation... où l'Arabie a besoin de l'aide technologique et l'intelligentsia scientifique des États-Unis et des Juifs, cette situation de l'Arabie fait que les Palestiniens ne sont plus soutenus par l'Arabie. Et que les Palestiniens n'ont plus vraiment de soutien nulle part. Sauf encore de l'Iran actuellement, qui a été remis à sa place, Monsieur Rahmani, je pense que c'est son nom, le général perse, donc iranien, qui projetait il y a 100 000 roquettes au sud du Liban et missiles aussi tout près du Golan, en Syrie, tournés sur Israël. Et il y allait souvent, le service secret américain le savait, pour préparer un badaboum général. Et donc ils l'ont tué, assassiné, en Irak, et naturellement ils auraient pu s'insurger et tirer les roquettes. Mais la Russie a dit non, 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 pas du tout. S'il vous plaît. Non, 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 non. C'est la Russie qui a mis un halte là. Autrement, la Turquie aurait dit ben, allez-y, hein, à l'Iran. On verra pourquoi. La Russie a dit, non, non, il ne faut pas bouger. Faites des formalités, faites un petit coup de bluff à télévision, mais c'est bon, pour rassurer vos populations. Alors, il y a un désintérêt réel de l'Arabie pour soutenir les Palestiniens. Ça, c'est une clé très importante. Et monsieur Trump et monsieur Kouchner, son gendre qui est juif, en profitent pour présenter des plans de paix en Israël. Donc, les Palestiniens auraient la Cisjordanie moins 30%. Tout le long de Jordanie, il y aurait des missiles juifs pour protéger Israël, parce que c'était la grande crainte d'Israël, et il y aurait des accords avec l'État palestinien pour qu'ils ne s'arment pas, mais ils auraient 50 milliards de dollars en cadeau s'ils acceptent la création de l'État palestinien en Cisjordanie avec une perte de 30% du territoire de Cisjordanie. Naturellement, nous savons très bien que c'est humiliant d'accepter devant une caméra de télévision. Donc les Palestiniens actuellement refusent. Mais ils n'ont pas beaucoup de choix. Ils n'ont pas beaucoup de choix, sachez-le. Et donc, il y a des tractations qu'ils ont prévues pour 4 ans avec M. Kouchner et M. Trump avec les Palestiniens. Et ces tractations vont amener probablement un accord de paix comme il est écrit dans Ézéchiel 38. Et vous savez très bien que dans Ézéchiel 38, quand il y aura un accord de paix et que Israël sera en paix, les villes ouvertes, sans murailles, etc., seront là, alors Gog, c'est la Turquie, Magog, la Russie, et tous les autres que nous connaissons alentour, attaquent Israël. La condition sine qua non. Maintenant, la seule qui reste pour l'exécution de Ézéchiel 38, c'est l'accord de paix, qui est prévu bibliquement et qui semble impossible actuellement. Mais vous savez, pour Dieu, l'impossible, c'est pas comme ça. C'est très surprenant ce qui se passe au Moyen-Orient. Alors, il y a un accord en tractation et la Turquie voudrait bien attaquer et faire de Jérusalem la capitale islamique. Eh bien, M. Trump et Kouchner ont proposé qu'à l'orient de Jérusalem, à l'est, il y ait une zone où, appelée Jérusalem, et qui soit la capitale des Palestiniens. Voilà, c'est bien gentil tout ça. Hein? Alors, c'est assez étonnant, puisque dans Zacharie, Malachie, etc., d'autres prophètes, c'est là que Jésus revient. C'est assez étonnant, d'ailleurs. Donc, tout cela, ça nous amène à vraiment quelque chose, c'est que la Turquie attend et ne bouge pas, l'Iran attend et ne bouge pas, la Russie attend et ne bouge pas. Et M. Poutine est venu en Israël. Pourquoi? Parce que M. Poutine a beaucoup de juifs encore en Russie et il y a beaucoup d'argent pour le soutenir. C'est comme aux USA, les juifs sont riches et soutiennent l'économie. Et d'autre part, sur Israël, il y a beaucoup de chrétiens orthodoxes auxquels M. Poutine tient et qui ont d'énormes propriétés immobilières en Israël, d'énormes. Et M. Poutine veut un accord pour récupérer certains territoires que les Juifs ont pris qui appartenaient aux orthodoxes. Et il est en train de faire des tractations. Pourquoi ? Parce que c'est l'honneur de son église orthodoxe qu'il soutient en Russie. Et c'est donc forcément l'honneur de tous les chrétiens orthodoxes de Russie qui soutiennent Poutine. Donc, c'est un badge en plus pour Poutine, pour asseoir son pouvoir chez lui, s'il arrive à récupérer des territoires qui étaient anciennement aux patriarches de Moscou et à tous les abbayes, les monastères orthodoxes qui étaient en Israël. Tout cela, c'est complexe, mais c'est suite à des lectures et bien sûr à des réflexions que j'ai menées ensuite que je peux vous dire tout ça. Tout ça, c'est important parce que ça nous montre par où Dieu va passer pour arriver à réaliser son plan. Quelles que soient les opinions des hommes, le plan de Dieu se fera. C'est ça que j'insiste. Donc, M. Trump, qui paraît, je vous l'ai dit, un petit peu foufou pour l'Europe, ben, il est guidé par quelqu'un d'autre. M. Kouchner, son gendre, et aussi, derrière M. Kouchner, les plans de Dieu. Et nous n'avons pas trop à nous en faire, ce ne sont pas les hommes qui ont le contrôle de l'histoire humaine. C'est Dieu qui l'a. Ne l'oubliez jamais. Alors, je voudrais continuer. Monsieur Trump, qui a renié les accords nucléaires que Obama avait signés avec l'Iran, qui a renié les accords nucléaires de l'Europe avec l'Iran, il a mis des bateaux dans le golfe d'Ormuz, et ce golfe d'Ormuz, c'est le golfe Persique. L'eau a monté depuis des milliers d'années, hein, 3-4 000 ans, 10 000 ans à peu près. Mais il y avait la région de Shinjar, le paradis terrestre, le sud de l'Irak, et une partie qui est immergée maintenant, c'était Shinjar. Et c'est à Shinjar que se trouve l'iniquité dans un des prophètes, à la fin des temps. On étudiera ça une autre fois en détail, à l'église. Et donc, cette zone-là, comme par hasard, c'est là qu'on construit les plus hautes tours actuellement. Vous voyez que toutes les firmes belges, françaises, anglaises, construisent des tours de 300-400 mètres. C'est comme par hasard l'équivalent de la tour de Babel. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Les signes de l'orgueil reviennent dans le pays de Shinjar. C'est de là que Abraham était parti en reniant tout ça par amour de son Dieu. C'est de là qu'Abraham était parti, et toute sa famille. Ne l'oubliez pas, c'est de là que viennent l'origine des promesses de Dieu faites à Abraham, et c'est de là que vient le peuple juif, en premier lieu, et nous les chrétiens, suite à la Bible des juifs et l'évangile de Jésus. Donc, cette zone est très importante pour nous. Donc, M. Trump a mis des bateaux, des porte-avions, et puis, il y a ça un mois et demi, l'Iran, la Chine et la Russie ont fait une démonstration. Ils ont amené des porte-avions chinois et russes là, à côté des bateaux américains, et les avions de chasse passaient à 50 mètres au-dessus des bateaux américains pour les narguer. Pensez bien que tout cela, ce n'est pas de la rigolade. Ce sont les pays les plus puissants qui sont en train de se titiller. Et nous savons bien qu'il y aura des retombées au niveau biblique. Nous les comprendrons dans les prophéties. Et ça, c'est indépendamment de l'intelligence des hommes de ce monde. Hein. Les hommes de ce monde, eux, ils sont dans leur passion, dans leurs calculs, leurs intérêts, etc., leur diplomatie aussi. Les Kurdes, je reprends l'affaire des Kurdes, les Kurdes n'en valent donc plus la peine, on se tire de là, tant pis pour eux. Quant aux chrétiens de Moyen-Orient qui se sont mis là, quant à ceux qui sont devenus évangéliques là, tant pis, qu'ils passent à la trappe, c'est pas grave. Vous vous rendez compte, les amis, à quel point la cruauté est grande dans ce monde, hein, même de soi-disant de pays chrétiens, qui se disent chrétiens, voilà ce qu'on fait. Cette grande iniquité, pour moi, est une provocation, une insulte à Dieu, et bien sûr, une offense faite aux hommes, qui avaient mis leur confiance dans l'Occident, dans des pays soi-disant chrétiens, ou post-chrétiens. Donc la présence omnipotente de la Russie s'est installée à Damas, puisque M. Trump n'est plus intéressé, et c'est M. Poutine qui a l'influence. D'autre part, je dois vous signaler, j'ai observé ça, j'ai étudié ça de tout près, en Irak, en Syrie, dans Damas, et même tout alentour, dans cette zone que Bachar al-Assad a repris le contrôle, avec l'aide de la Russie, il y a plein d'ethnies arabes, qui est autre que arabe, qui ne se supporte pas. Et aujourd'hui, quand vous avez des réfugiés à l'île de Lesbos, vous avez des chrétiens, mais vous avez beaucoup, beaucoup de gens qui sont musulmans. Pourquoi ? Pourquoi il y a plein de gens musulmans qui viennent en Europe ? Parce que dans cette zone, les ethnies musulmanes se combattent entre elles. Et il y a des musulmans qui souffrent, qui sont lourdement attaqués par d'autres ethnies. Deux ou trois ethnies sont soutenues par M. Bachar al-Assad et la Russie, et les autres ethnies qui sont musulmanes doivent fuir, tout autant que les chrétiens. Donc ne soyez pas étonnés qu'il y ait des réfugiés musulmans, et ne les prenez pas pour une cinquième colonne de l'islam ou une cinquième colonne de, etc., des djihadistes. Ce sont des malheureux aussi. Il y a bien sûr de temps en temps un fou furieux dans la bande. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a beaucoup de musulmans qui souffrent aujourd'hui de tout ce déchirement dans leur pays, dans toutes ces zones. C'est un cri qui monte au ciel vers Dieu, ce cri des malheureux. Parce que là-dedans, même s'il y en a qui sont musulmans, il y en a qui croient en Dieu, sans le connaître encore, sans connaître vraiment Jésus. Mais il crie à Dieu. Et vous savez bien que dans Ésaïe, au chapitre 17 et 18, dans le pays où coupé vers des fleuves, plusieurs fleuves, à la fin du chapitre 17, et dans les peuples redoutables, c'est l'Irak et la Syrie. À cette époque-là, c'était la Syrie, un seul pays. Et il y aura des gens qui adoreront l'Éternel à Jérusalem, avec les Juifs et les chrétiens. Dans le psaume 87, c'est la même chose. Le psaume 87. Et d'autre part, dans Ésaïe chapitre 18, il est bien écrit et annoncé que les Égyptiens adoreront l'Éternel à Jérusalem et que les gens de ce peuple redoutable, venu du pays traversé par des fleuves, adoreront Dieu. Et Israël sera le troisième. Ça veut dire qu'il y a une masse importante de gens qui actuellement souffrent et dont le cœur est préparé à l'Évangile par le Seigneur à travers les épreuves. Tout cela, c'est clair, pour moi en tout cas c'est clair, Dieu est en train de préparer un grand rassemblement à Jérusalem, dont je vous ai déjà parlé en Ésaïe chapitre 25, où tout le deuil, le chagrin, la souffrance, Ésaïe 25, versets 6 à 9, où le voile de la mort sera ôté sur toutes les nations. Mes chers amis, ce qui se passe pour le moment, ça touche beaucoup de cœurs, même non-juifs et non-chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui crient vers Dieu, qui ne connaissent pas encore, mais ils se révèlent, Dieu se révèle là où il veut. Et il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de contacts via Internet avec le monde chrétien et des évangiles. À titre d'exemple, pour vous dire que nous ne sommes pas les plus brillants en Occident, tous les films de Jésus de Nazareth qui ont passé depuis 25 ans en Europe, sur l'évangile de Luc, de Marc, etc., de Jean,
peut-être pas tous, hein.
Beaucoup, les réseaux de télévision n'en voulaient pas, parce qu'ils sont dirigés par d'autres. C'est un Tunisien qui était riche, qui a acheté aux maisons de production ces films et qui les a apportés en Europe. Un Tunisien musulman. Chose étonnante. Et pourquoi pas ce Tunisien riche ou d'autres du même genre apporter dans ces régions le message de l'Évangile. Vous rendez compte que Dieu se sert de qui il veut, quand il veut. Et je me réjouis de tout cela. Donc, si vous voulez, actuellement, si vous regardez tous les pays qui sont cités dans Ézéchiel 38, ça concerne tous les pays qui sont alentour d'Israël, Magog, c'est la Russie. Gog, la Turquie. Aram, c'est l'Iran. Put, la Libye. Le Midi, c'est Soudan, Éthiopie et Érythrée, Somalie. Et puis, il y a Tarsis, l'Espagne, chose bizarre. Je ne sais pas où une partie des Espagnols, en tout cas, qui soutiendront. Et tous ces pays-là, même d'autres qui sont cités, la Chine, etc., Sinim, dans d'autres textes que Ézéchiel 38, Sinim est cité. Et pratiquement, toutes ces personnes-là ont déjà un accord entre eux. Et ce qu'on appelle dans la Bible, c'est le royaume du Nord. Le royaume du Nord est préparé pour attaquer Israël. Il suffit qu'il y ait l'accord de paix proposé par M. Kouchner et M. Trump. Vous regardez-moi ça. C'est la petite clé qui ouvre la grosse serrure et puis, oup, et vous avez ce qu'on appelle un Armageddon, c'est quoi? Une bataille où les grêlons détruisent les armées qui envahissent Israël dans la vallée du Nord où j'ai été, j'ai circulé là. Et Armageddon, ça veut dire la colline de Megiddo, hein. La colline de Megiddo, c'était une forteresse ancienne, etc. Et c'est là que se passera sans doute la défaite de toutes les armées. Avec des grêlons de 33 kilos, selon grec. Qu'est-ce qui m'a ouvert à étudier la Bible et à m'orienter à rechercher comme ça? Quand j'étais affairé, comme vous pouvez, sans doute vous connaissez ça dans votre vie, et je l'ai connu, et parfois il faut encore que j'évite. Je me méfie de l'affairisme. Il y a eu des grêlons au nord de l'Espagne de 15 kilos. Et puis un ami est venu passer chez nous en disant qu'une base de l'OTAN était détruite en Suède avec des grêlons d'un ou deux kilos. Tout cela m'a réveillé et j'ai commencé à relire la Bible. Il m'a fallu du temps. Et je suis d'abord tombé sur une prophétie de Ésaïe 66 où en un seul jour Israël est créé. Un nouvel État est créé. Quand j'ai vu cela, je dis, oula, en relisant ma Bible, et puis ensuite, dans Ésaïe 27 ou 28, il est mis que Israël, à la fin des temps, couvrira le monde de fruits et de fleurs. J'ai écrit à l'ambassade d'Israël à Bruxelles, j'ai demandé les statistiques du commerce israélien, et j'ai vu que c'était vrai. Il y a ça 30 ans, 35 ans. Donc j'ai, suite à certains faits, ma soif de retrouver l'autorité des prophéties a pris son temps. C'est pour ça que je vous donne aujourd'hui, dans un grand raccourci, je vous montre un cliché de l'autorité des prophéties. Vous ne repassiez pas 30 ou 40 ans comme moi à chercher. Alors, troupes américaines, européennes se sont retirées, mais les armements ne se sont pas retirés. Nous en vendons toujours au Moyen-Orient. Et de ce fait, la colère de Dieu peut être sur nous. Je dis peut-être, je suis gentil. Nous ne nous étonnons pas que Dieu exerce son action sur nos pays occidentaux, coronavirus et d'autres, pour que nous nous remettions en question. Parce que nous faisons tout comme si Dieu n'existait pas. Alors, cette épreuve-là peut faire réfléchir des responsables, des philosophes, etc. Mais moi, je pense, en tout cas, que c'est un indice que Dieu n'est pas content de ce que nous faisons par notre exportation d'armes en tout genre. Vous savez très bien que Monsieur Trump a besoin de vendre des armes aussi pour vivre, pour stabiliser son économie. Donc il propose que toute l'Europe s'arme et que l'Europe, tout doucement, prenne toute la place de l'Amérique américaine dans l'OTAN et que l'OTAN s'équipe avec des armes modernes. De quelles armes? Les américaines. Évidemment. En voulant retirer tout le support à l'OTAN, Trump fait des pressions pour qu'on achète toutes les armes américaines. Pourquoi pas? Business is business. Donc il ne faut pas s'étonner que des licences françaises, allemandes, néerlandaises, belges, des licences d'armes que des usines y servaient, se déplacent et sont vendues à des groupes américains. Parce que les actionnaires auront toujours leur beurre. Et la Belgique a fait ça déjà depuis 4-5 ans. Hein, vous savez que la FN, la fabrique nationale qui se trouve à Hersal à Liège, avait des licences et des brevets pour des armes redoutables qu'on trouve partout en Afrique du Nord, là, avec les djihadistes, etc., qu'on trouvait chez Kadhafi. Et ces armes de la FN portent d'autres noms, autre part. Ils étaient les maîtres de Winchester aux États-Unis et d'autres marques. D'autres marques aux États-Unis. Ils ont lâché tout ça. Ça, c'est des jeux de trappe dans les banques. On reste toujours les maîtres, mais sous d'autres noms. Et on peut revendre à l'Europe, au futur OTAN européen, armé, soi-disant, des armes fabriquées aux États-Unis qui enrichissent les États-Unis. Donc, nous sommes dans un imbroglio d'intérêts, un imbroglio d'hypocrisie vis-à-vis de la population qui nous dépasse, mais qui ne dépasse pas Dieu. Qui ne dépasse pas Dieu. Là, loin de là, loin de là, Dieu n'aura pas le dernier mot. C'est lui qui aura le premier mot. Il l'a toujours eu. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans un temps de charnière au niveau de l'Europe, de l'Asie, du monde entier. Du monde entier. Donc, pour moi, Trump n'a pas de réaction imprévisible comme la presse européenne le laisse croire. La presse européenne n'a pas de racines bibliques, n'a pas de ressources au niveau biblique pour comprendre ce qui se passe. Et la presse européenne, eh bien, elle se passionne et elle l'attaque et elle salit Trump. Mais si c'était quelqu'un d'autre, ce serait la même chose. Parce que là, quand on ne comprend pas, eh bien, on devient faux furieux et on attaque. Alors, pour moi, il me semble, en tout cas, que derrière M. Trump et M. Kouchner, quelqu'un d'autre a préparé l'invasion d'Israël, Ézéchiel 38, et l'échec de l'invasion. Et de ce fait-là, Israël, qui a fait un accord de paix, ne pouvait pas utiliser les armes en cas de conflit. Donc Israël sera défendu par la main de Dieu, sans l'usage des armes. C'est ça dans Ézéchiel 38. Et c'est là qu'il y a une immense conversion de juifs. Et de Syriens, d'Irakiens, d'Arabes. Parce que cet événement-là sera majeur pour l'humanité, en tout cas dans le Moyen-Orient, et peut-être dans le monde. Et je pense que la gloire de Dieu touchera des cœurs. Ce qui ne veut pas dire tout le monde. Puisque quand Jésus enlèvera les chrétiens, il y aura quand même plein de gens qui vont rester sur terre et qui ne veulent pas croire en Jésus. Ils ne veulent pas croire dans la Bible et en Dieu, le Dieu d'Israël. Donc il faudra encore 7 années de tribulation et un échec, un nouvel échec, Ézéchiel 39, au nord d'Israël, pour que cette fois le royaume soit installé, le royaume de Christ. Alors, je remercie le Seigneur de pouvoir m'avoir donné la foi et de lire la Bible de cette manière-là. Sachez bien que quand Israël sera attaqué, dans Ézéchiel 39, à la fin des tribulations, le grand aigle, et c'est le symbole, des USA, viendra en aide à la femme, c'est Israël, afin qu'elle s'envole au désert du Negev et qu'elle soit protégée pendant 2 ans et demi. Donc c'est pas étonnant qu'aujourd'hui encore, les USA protègent Israël. Et ça semble illogique pour les pays arabes, ça semble illogique pour les pays européens. Mais la prophétie, c'est que le grand aigle protège. Et donc, ne nous étonnons pas de tout cela. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quelques indices que les prophéties se réalisent toujours. Quand les États-Unis, accompagnés de 23 autres pays, ont attaqué Saddam Hussein, 11 millions d'habitants, qui n'avaient pas d'armes chimiques, et pas d'armes nucléaires, qu'on a brisé pour des tas d'autres raisons que celles qu'on donnait dans la presse et que les Américains ont données officiellement. Toute cette coalition qui a brisé Saddam Hussein et l'Irak s'est arrêtée la nuit, alors qu'il fallait encore 24 heures pour prendre Saddam Hussein et Bagdad, la nuit de Purim, la fête d'Esther. Esther a gagné avec Mardoché, Haman a été pendu et les ennemis d'Israël avaient été vaincus. C'est à cette date-là qu'on a arrêté les bombardements et les attaques sur l'Irak. Chose étonnante, stratégiquement, militairement, c'était incompréhensible. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Si nous n'avons pas la Bible pour comprendre des informations, nous n'avons pas tous les éléments. Ça, c'est un élément. Un autre élément, c'est pour vous dire, c'est pour que vous ayez toujours recours à la Bible, à la prière et au Saint-Esprit, pour comprendre les choses. Avoir une intelligence autre que celle du monde et des moyens d'information qui les dépasse. Quand il y a eu cet échec d'Irak, au bout de quelques temps, l'Irak pensait s'en sortir en vendant du pétrole. Donc, au mois d'août 1990, il y a eu un décret 665 pour empêcher, on a mis la flotte américaine, empêcher l'exportation de pétrole irakien. Et on a fait des contrôles tout alentour de l'Irak pour que l'Irak ne puisse plus se réarmer et avoir de l'argent.
665.
Et au mois de septembre, l'ONU a créé le décret 666 pour empêcher l'entrée des médicaments, des pièces de rechange et l'exportation de pétrole. Ce décret 666 de l'ONU, ça correspond au chiffre de la bête. Dans la Bible, dans l'Apocalypse, vous voyez qu'à un moment donné, la bête est mortellement blessée et on pense que c'est fini. Mais après, elle sera guérie. Que se passe-t-il ? Eh bien, je vais vous expliquer, comme je le peux, je n'ai pas toutes les explications. C'est que l'ONU, par la suite, s'est affaiblie de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'il y avait plus de 2000 pays qui avaient un droit de vote égal. Le Luxembourg, le Liechtenstein, Andorre, etc. Tous les petits pays avaient un droit de vote. Et ça a dérangé très fortement les puissants, les sept. Et pour contourner l'ONU et pour contourner cette démocratie mondiale, le groupe de G7 s'est réuni régulièrement et a pris des décisions et il a coiffé l'ONU. Il l'a blessé mortellement. Et quand le G7 ne s'en sortait pas, il a fait le G20. Il a associé d'autres pays, comme le Brésil, etc., l'Inde, pour faire pression. Et l'ONU est devenu un tout petit toutou. Et voilà la bête blessée. Mais elle se relève. Elle se relèvera. L'ONU sera utilisée après, à un moment donné, par toutes ces nations puissantes. Quand leur intérêt sera de réutiliser l'ONU, eh bien, on va remettre l'ONU au-dessus, sur le pavois. C'est ça le principe de la bête blessée, puis mortellement, puis qu'ensuite est guérie. Et je voulais vous donner cette interprétation que l'ONU, pour un certain temps, est au fond du panier et que toutes les déclarations qu'ils font, c'est comme du vent, face à la force économique et politique du G7 et du G20. Mais c'est encore une petite lampe qui est allumée et qui un jour, le G20 et le G7 vont s'en servir comme façade, comme camouflage, comme alibi, pour d'autres motifs que vous pouvez lire dans la Bible. Donc, on doit s'attendre, bien sûr, à la création d'un État palestinien d'ici 4 ans, sous la pression américaine, et un accord où ils ne seront pas trop fiers, mais ils vont avoir beaucoup d'argent, ils auront quand même un État, ils auront quand même Jérusalem-Est, un petit peu en dehors, mais enfin à côté. Et c'est l'ONU qui va le faire. C'est l'ONU là qui reprend le dessus. Il faut la façade. C'est l'ONU qui va faire ça. Vous voyez ? Et pour que ça se passe bien, On mettra des armées de l'ONU, c'est-à-dire, c'est ça, les armées de l'ONU, qu'est-ce que l'armée des nations. Et ça, vous l'avez dans Luc, quand les armées des nations seront à Jérusalem, c'est le temps de la fin. Donc, quand l'ONU réussira son coup de créer l'État palestinien, parce que tout est concocté, savamment derrière nous, mais Dieu est encore derrière eux, et au-dessus. Eh bien, l'ONU permettra, dans un bel exploit diplomatique, mais voulu par d'autres, c'est une couverture si vous voulez, c'est un étendard, une bannière, de créer cet État. Il y aura des soldats à Jérusalem, et ça c'est l'accomplissement de une des dernières choses qui est très nécessaire que Dieu a voulu, l'armée des nations à Jérusalem, comme un signe pour les croyants. Quand j'étais en Israël, à Jérusalem, je circulais avec quelques amis et on voyait des collines. Jérusalem, c'est toute une série de collines. Et un de mes meilleurs amis, Michael Benley, me dit, tu vois cette colline-là, là-bas, au-dessus, il y a l'ONU. Et tu sais comment c'est la colline d'Akitophel, le conseiller de David qui lui faisait du mal et qui après a voulu conseiller Absalom et qui s'est pendu. Et tu sais comment on l'appelle? Que les Juifs d'aujourd'hui l'appellent, cette colline avec tout le bâtiment de l'ONU, la colline du mauvais conseil. Aujourd'hui, les Juifs qui connaissent la Bible appellent ça la colline du mauvais conseil. C'est-à-dire, c'est à manier avec des pincettes. Parce que ça peut paraître bon et mauvais à la fois. Vous voyez? Donc, tout ça... je remercie le Seigneur de m'avoir éclairé quand mon ami Michael m'a expliqué beaucoup de choses sur place, sur le terrain. C'est Dieu, bien sûr, qui était derrière tous les propos de mon frère Michael. Il faut savoir qu'il y a eu autre chose encore dans l'accomplissement des prophéties. C'est que le 30 novembre 1995, à l'île de Crète, 42 pays alentour de la Méditerranée se sont réunis et ont créé la Confédération Méditerrano-Européenne pour la paix et la sécurité de la région. Et ils ont créé l'organisme pour que toutes les langues de cette zone puissent se connecter et se comprendre, Babel. Si vous allez sur Internet, vous trouvez Babel. Ça a été créé à cette occasion par un juif athée, figurez-vous. J'ai vu sa tête ce jour-là, il était 2h30 du matin. Je n'ai jamais revu cette émission, comme quoi c'était dangereux pour sans doute que les personnes soient informées. Et cette confédération de pays européens, méditerrano-européens, si vous allez sur le site d'Internet, etc., vous ne la trouverez jamais. Vous devrez chercher sur recentrement de la politique européenne autour de la Méditerranée. Recentrement. Parce qu'ils ont effacé le mot pour qu'on ne puisse pas comprendre l'accomplissement des Écritures. Mais l'accomplissement des Écritures est là. J'ai regardé la carte de l'Empire romain sous Trajan, 115 à 118 après Jésus. L'Empire romain, à l'époque de l'empereur Trajan, c'est la même carte, c'est le même espace que les pays de la Confédération méditerrano-européenne. Je n'en revenais pas. J'ai un atlas historique, j'en ai deux, trois là, mais c'est efficace à comparer ça. Je me suis dit, bien c'est ça. Le dernier royaume que Daniel a annoncé au chapitre 2, qui est fait d'argile et de bronze. À la même place que l'empire de fer, qui était le quatrième, le troisième ou le quatrième, il y avait, le quatrième, l'empire de fer très féroce, qui a duré longtemps, hein, plus de 7 siècles, hein, l'empire romain, qui renaît pour une courte durée, dit Daniel, au roi de Babylone, parce que, qui est plein d'iniquité, et plein d'injustices, qui est pour une courte durée. Pourquoi? Il explique au roi. Parce qu'il est composé de peuples à la pensée et à l'intérêt divergent, voire opposés. Ça a été le cas. Ils ont tous signé, et puis après, on envoie rendu des armes aux tribus pour attaquer Bachar al-Assad. Après, on a bombardé Kadhafi, alors qu'on l'avait accueilli à Paris, etc. Kadhafi avait signé des accords de pétrole avec l'Italie, mais ça ne plaisait pas aux Anglais et aux Français. Hein, British, BP et Total, ben, éliminons Kadhafi et l'Italie, on se servira les premiers. Donc, vous voyez, il y a effectivement un assemblement de pays alentour de la Méditerranée qui ne s'aiment pas, qui font semblant de s'aimer, et qui ont signé un accord, et qui, dont l'état d'esprit est décrit dans Daniel au chapitre 2. Esprit opposé, intérêt différent. Ça, c'est le propre du monde. C'est le contraire du royaume de Dieu. Et si vous lisez chapitre 2 de Daniel, vous voyez que c'est le dernier empire qui est ensuite brisé par un rocher qui descend du ciel et qui le brise. Et c'est Christ qui établit son royaume. Approfondissez les Écritures, vous verrez. Et donc, aujourd'hui, plus qu'avant, nous ne sommes pas loin des accomplissements finaux de l'Écriture. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, puisque nous sommes dans la génération qui verra peut-être la gloire de Jésus venir sur terre. En tout cas, qui verra l'autorité de Dieu à travers ses prophéties accomplies. Nous n'avons pas besoin de douter de Dieu. Beaucoup de choses se réalisent selon la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de douter. Alors, je voudrais vous montrer, par exemple, une belle photo. Irina Zendler. Irina Zendler était une Allemande, ou une Polonaise plutôt, qui, quand Varsovie était entourée par les nazis, la Gestapo, elle était plombier. Et elle avait une autorisation pour aller dans le ghetto de Varsovie. Elle avait une voiture avec plein d'outils, et chaque fois qu'elle ressortait du ghetto, derrière tous ses outils, elle avait pris des enfants juifs. Elle en a passé comme ça une quantité incroyable. Et c'est comme ça que s'est préparé le futur Israël. 2500 enfants sont passés en cachette dans sa voiture. Jusqu'au jour où la Gestapo a compris, alors ils lui ont brisé tous les membres. Ils l'ont torturée, ils l'ont fait souffrir. Elle n'est pas morte. Elle n'en est pas morte. Elle a survécu et elle est morte à 98 ans. Irina Sedler, et puis le nom polonais, Krzyżanowska, un témoin de quelqu'un qui aimait Israël et qui a permis que 2500 enfants, 3 ans après la guerre, soient dans un état d'Israël. Rien n'est par hasard. Je vous montre une autre photo. Monsieur Netanyahu, le grand canaillou de la politique israélienne, Netanyahu, le grand canaillou, c'est comme ça que moi je le vois. Mais en tout cas, Dieu se sert de lui. Et Poutine, qui sont copains, et qui ont visité beaucoup de sites en Israël. Et le but de Poutine, c'est que l'URSS soit honorée, et qu'on lui restitue toutes les terres qui appartiennent aux orthodoxes. Monsieur Netanyahu, connaissant l'écriture et étant futé, n'est-ce pas, fera tout ce qu'il faut pour que Monsieur Poutine soit content. Et une petite astuce qui est dans le cœur de Poutine, que Dieu a mis. Poutine était orphelin, ou en tout cas abandonné. Et dans son enfance, il a été accueilli. Je ne sais pas si c'est à Constantinople ou plus au nord, il était accueilli dans une famille juive. Il était seul, sans parents. Il a été éduqué, il a été chéri par une famille juive. Et puis plus tard, il a rejoint le système communiste et le stalinisme, puis le KGB, il est devenu un dur du système. Mais dans son cœur a été déposée une larme pour Israël. Un amour pour Israël, pour un certain temps. Pour un certain temps. Peut-être que dans 3-4 ans, il est mort et que c'est un autre qui attaque Israël. Pour un certain temps. Et je voudrais vous donner un autre exemple. C'est que Gengis Khan, qui a attaqué Bagdad en 1298, qui a conquis beaucoup de territoires, avait été aussi dans le même cas que Poutine, tout petit, et avait été gâté, éduqué par des chrétiens orthodoxes. juif, ou orthodoxe cette fois-ci. Et il a respecté beaucoup de chrétiens orthodoxes parce qu'il avait été aimé et accueilli. Il avait eu l'hospitalité de la part de chrétiens orthodoxes. Vous voyez que l'amour, c'est une semence qui n'est pas détruite. On ne peut pas la détruire. Elle est incorruptible. Je vous donne un autre cas. Quand il y a eu la Révolution française en 1789, 3 ans après, le général Loison arrive et brûle Orval. Il arrive à Aide, le village à 2 kilomètres de chez moi. Il brûle tout le village, sauf 2 maisons. Pourquoi ? Parce qu'il avait été couturier dans son adolescence. Il était à Aide. La maison où il a dormi, il a mangé, qu'il a été accueilli, n'a pas brûlé. La maison où il a pratiqué la couture, il a appris le métier de couturier, elle n'a pas brûlé. Tout le reste a été brûlé. Vous voyez à quel point, même si quelqu'un a un cœur mauvais, il peut y avoir une larme, une compassion. Et ça, Dieu l'utilise. Dieu l'utilisera encore. C'est pour ça que je pense qu'il faut avoir toujours de l'amour pour nos ennemis. Il faut toujours avoir de la compassion. Il faut toujours accueillir nos ennemis. Et il faut toujours prier. Nous semons quelque chose d'irréductible qui nous dépasse et qui plus tard peut bénéficier à d'autres chrétiens, d'autres frères, d'autres sœurs. Voilà, mon message d'aujourd'hui est fini. Je pourrais durer des heures, mais ça ne sert à rien. Je vous souhaite une bonne soirée, du courage. Prenez force. Nous avons un livre remarquable, la Bible. Renouvelez votre intelligence, approfondissez. Et surtout, nous avons un très grand Dieu qui nous a mis tout ça dans la Bible et qui veut nous parler. Si j'ai fait l'effort de vous parler, c'est pour que vous compreniez que Dieu a un grand plan de salut, de rédemption. Alléluia. Bonne soirée.